Bonjour, l'émission La Voix des Poètes, sur Radio Altitude, Claire Demange. Chantal Dupuis-Dunier n'est pas encore avec nous. Je pense qu'elle sera là pour l'émission qui sera consacrée à son recueil « Mille grues de papier » auquel elle tient énormément. Alors aujourd'hui, je vais aborder un recueil qui est plus difficile d'accès et qui m'a posé d'ailleurs quelques petits problèmes de compréhension. Mais bon, Chantal Dupuis-Dunier m'a dit que c'était normal. Alors je vais vous le dire pourquoi. En fait, ce recueil s'appelle « Titre ou coulisses des degrés » publié par la Bartavel. Et en fait, à l'origine, ce recueil était écrit avec une autre poétesse. Donc, Chantal avait écrit des poèmes et cette autre poétesse répondait donc à ses poèmes. Malheureusement, la correspondance a cessé et les deux poètes ont voulu remettre cette correspondance, mais ça ne s'est pas produit. Et donc finalement, Chantal Dupuis-Dunier, je ne sais pas pourquoi je dis Colette, Chantal Dupuis-Dunier a repris ses poèmes et il ne reste plus que sa voix. Alors c'est peut-être pour cela qu'il y a une certaine incertitude, un petit flottement au niveau de mon approche. Mais comme Chantal m'a dit qu'une fois que le recueil était écrit, il appartenait au lecteur, eh bien je vais donner libre cours à mon interprétation. Simplement, je ajoute que titre ou coulisses des degrés, c'est un clin d'œil à Apollinaire par rapport à alcool. Dans de l'alcool qu'on boit, il y a le titrage de l'alcool. Hein, et donc, c'est cette allusion à Apollinaire, le titrage de l'alcool. Hein, et le titre coulisses des degrés, coulisses, c'est le fait qu'on est toujours en marge. Donc, ce recueil a une configuration un petit peu mystérieuse et particulière. Alors moi, en fait, je l'ai interprété un petit peu comme l'histoire de l'apprentissage de la création. Alors je ne sais pas si Chantal Dupuis-Dunier sera d'accord avec moi, mais c'est mon approche. Je vais l'aborder un petit peu en aveugle, hein, au feeling. Voilà. Alors ce recueil comporte trois mouvements, les feuillets vifs, la matrice de poésie et coulisses des degrés. Alors, j'ai considéré que c'était comme l'histoire d'un apprentissage. Alors, donc le recueil commence, j'apprends à marcher sans ombre, sous les dards lucides. Donc on a l'impression que là, il y a une quête de perception et de lucidité. Peut-être pour comprendre le mécanisme de la création du monde et le mécanisme de la poésie. Je continue. L'enfant du cactus, sève de rêve, génère les dieux au sein roux de la terre. Donc l'enfant découvre, l'enfant, à lui seul, crée sa propre mythologie. Un être en bouton grandit parmi les pierres. Sa peau trahit les mois du matin. Donc là, on a une naissance, on a un départ, une lancée. Je pense que c'est l'histoire d'une naissance, l'histoire peut-être de la naissance du monde, l'histoire de la naissance d'un enfant, l'histoire de la naissance d'un recueil. Avec, petit à petit, une ouverture. Une femme en couche chantait l'éclosion de son ventre. Je continue. L'arbre d'Esquamé ose la nudité, géographie du corps. Donc on a l'impression qu'on avance vers une révélation. Des bogues entrebâillées offrent une peau humide et le vernis de leurs secrets au regard qui les cueille. Donc il y a ouverture, il y a révélation d'un secret. Hein. En même temps, il y a travail sur la matière, hein, puisque les bogues, qui sont piquantes, eh bien, elles vont s'ouvrir et offrir une peau humide. Donc, travail sur la matière, travail sur le toucher, travail sur certains sens. C'est un peu comme l'accouchement de la femme, tout à l'heure, on l'a vu. Une femme en couche chantait l'éclosion de son ventre. Et là, un petit peu, l'éclosion de la nature, les bogues vont donc donner leurs fruits. Donc, même les deux se confondent. Je lis un peu plus loin. « Menstru d'encre, scellement par l'encre. » Un petit peu la page d'avant. « Le chant languide et ocre de l'argile pénètre la nef des femmes, monstru d'encre, scellement par l'encre. » Donc on va écouter un petit extrait de musique d'Alban Berg. Une musique un petit peu moderne, hein, qui est, je me semble, bien adaptée à ce texte qui est très suggestif et qui travaille sur la matière, qui travaille donc sur le thème de la naissance. Donc on a l'impression aussi d'un cheminement, c'est le même cheminement pour le poète. D'abord on va écouter donc ce petit extrait de musique de Alban Berg, musique un petit peu expérimentale pour s'adapter donc à ce texte, un petit peu expérimental aussi. Thank you. donc c'est vrai, c'est une approche un petit peu surréaliste donc de la naissance, de la création. Et, d'ailleurs, on a le même cheminement pour le poète. Le poète, ce qui est écrit, le regard du poète se fait soupirail. Commence loin un rêve, il voit trembler les elfes près des aulnes. Donc le poète, là, en fait, eh bien, poésie, c'est la création. Et là, il va créer en fait il va inventer des formes près des aulnes. Il voit trembler les elfes près des aulnes. Donc, on a l'impression aussi que le poète, comme la terre qui se découvre, découvre. Là, il va découvrir des elfes près des aulnes. Il va créer son propre monde qui peut-être existe, ça nul ne le sait. Donc, place à la découverte. Le clair de lune signale son absence par un certain reflet à l'angle d'un nuage. Là, le poète va découvrir le clair de lune et le reflet à l'angle d'un nuage. Une noce de monial poursuit inlassable sa route statique. Donc on attend soit une naissance, soit une révélation. Un peu plus loin, l'avènement est proche. Le brasier dira l'indécence des artères du bois. Donc on est sur un fond de paysage multiple, hein, bois, mer. Là on va être sur un fond de mer. À l'émergence des flots, plage opale, des sirènes osent le rivage. Les lames dessinent sur l'ardoise de l'eau leurs jambes renoncées. J'aime beaucoup leurs jambes renoncées, puisque donc les sirènes n'ont pas de jambes, leurs jambes renoncées. Donc on a l'impression que le poète découvre ces paysages, que ce soit sur fond de bois, que ce soit sur fond de mer. Une fluide lumière oblitère le littoral. Donc là, elle découvre une lumière au-delà du littoral. Donc il s'agit bien d'une découverte, d'un processus donc d'ouverture, avec toujours cette notion que l'ouverture... Toutefois, avec cette notion que l'ouverture porte en elle une certaine souffrance. J'arrachais la peau des fleurs entre deux ongles. La chair des songes apparaissait violée. Des fers chauffés pour le marquage exhument leur langue trilobée de la gueule des lys. Donc à partir de la nature, on va créer d'autres paysages, on va créer d'autres formes, d'autres présences. Et d'ailleurs, on peut se poser la question, cette souffrance est peut-être celle de la création poétique. L'enfant des déchirures arbore les stigmates de l'écriture. Et là, on va écouter un petit morceau aussi, toujours expérimental.
Thank you.
processus de la création, hein, donc dans la souffrance, l'enfant des déchirures arbore les stigmates de l'écriture. Et je vais maintenant aborder le deuxième mouvement, la matrice de poésie. Toutefois, avant d'aborder la matrice de poésie, je voudrais donc revenir sur le fait que c'était un recueil qui devait être écrit à deux voix et qu'il n'y a pas toujours les réponses de la personne qui n'a pas contribué au recueil. Regardez par exemple, c'était très net, d'ailleurs j'ai oublié de le dire tout à l'heure, des bogues entrebâillées offrent une peau humide et le vernis de leurs secrets au regard qui les cueille, où les racines touchent la terre touche aussi les racines et ce double contact signifie. Ça s'arrête là, on a vraiment l'impression, on attend une réponse en fait. Donc voilà, c'est simplement, je voulais noter cela. Alors la matrice de poésie, alors là il semble qu'on soit à l'intérieur même de cette matrice. Matrice ardente, les pages écorchées brûlent, métal dévoré par une goutte de miel. Donc matrice féminine aussi, sur la poitrine des femmes, les fleurs en promesse se colorent sous la main solaire du désir. Donc c'est un texte très sensuel aussi. Hein. Donc, mais bon, on peut imaginer qu'effectivement, sur la poitrine des femmes, les fleurs en promesse, elles attendent donc de s'épanouir, elles attendent donc l'écriture. Hein. C'est peut-être le désir qui va effectivement faire jaillir l'écriture. Donc matrice aussi végétale, la blancheur vénale d'un figuier entaillé à la jointure de deux branches pleure sur la joue de la nuit. Des corpuscules de lait étreignent la griffe féline d'une première lune. Donc on imagine très bien la scène, hein, le figuier dont la sève blanche éclate sous peut-être une griffure. La griffe féline d'une première lune. Alors ce texte m'a évoqué énormément la poésie de Lorca, où la lune est omniprésente. Donc minérale et végétale aussi cette matrice. Je prends un peu plus loin. Sous l'étoffe tendue de la feuille, les mots convulsent le derme du monde. Les ondes du magma glissent sous les colonnes. Un frisson potentiel dans les contours du vent, l'attente creuse des falaises. Donc on a l'impression un petit peu que tous les éléments participent un petit peu à cette création qui est multiforme, polyvalente. Hein. Et la mort, comme la vie, y a sa place. La saison engrange les retirés dans les cellules de nos vies. J'écris sur leurs barreaux en direction des fosses fécondes et de l'âme des lumières. Le jour éclipse la transparence de l'ombre. Sur le rose des lauzes, la pluie authentifie le dire secret des toits. Donc la coquille nacrée du crâne transparaît sous la chair du visage. Les joues des morts s'inclinent déjà vers le sol. Le froid ne triche pas avec le corps du désir. Tout à l'heure, on avait donc ces fleurs qui fleurissaient sur les poitrines des femmes, et là, maintenant, on a le froid qui va donc étouffer les fleurs et qui va étouffer le désir. Le froid ne triche pas avec le corps du désir. On appréhende déjà un petit peu la mort. Donc, c'est là, au sein de cet univers, et de cet univers donc polyvalent, multiforme, et de ces sensations protéiformes, que se trouve la poésie. Alors je vais vous lire ce qui me fait penser à cela. Nos douleurs n'engendrent que la jouissance du diable. La poésie est au-delà des braises, dans les embrasures des bassins. Les silures se demandent-ils s'ils souffrent ? Donc le poète, lui, se demande donc pourquoi il crée. Il crée dans la souffrance. Bon, et les animaux, eux, ne le font pas. Mais on peut toujours se le demander. Noirs les diamants, obscurs les mots, brûlants d'une lumière, tu, durs les mots, impitoyables et purs, sur l'humble couche de nos mains. Donc, les mots sont comme des diamants, donc ils sont brûlants. Alors, c'est vrai que c'est certainement une réponse à une autre, à quelqu'un d'autre qui écrivait, parce que Chantal Dupuis-Dunier nous a toujours dit que la création n'était pas douloureuse pour elle. Mais bon, il s'agit peut-être d'un dialogue. Alors, on va écouter un extrait donc de Isaïe, donc une musique un petit peu aussi moderne et expérimentale. vraiment enfin, donc, au cœur de la matrice. Hein. La coupe préfigure le ventre. Le ventre hébergera le temple. Donc on peut imaginer tout. Hein. Donc, le ventre hébergera le temple, donc les croyances, la poésie, la création. Par contre, la dernière page m'interpelle un petit peu. « Je jetterai des poignées de terre sur ce recueil refermé. Les larves du soleil éblouiront la tombe. » Est-ce un désir donc d'oublier le recueil ? Est-ce un désir de tourner la page ? Donc là, la fin est un petit peu énigmatique et c'est dommage que Chantal Dupuy-Dunier ne soit pas là. Alors maintenant, on va rentrer dans la troisième partie, « Coulisses des degrés », avec ce clin d'œil avec Apollinaire. Alors, je vais aussi interpréter cette partie, bien sûr. Hein. Et je pense, j'ai trouvé que la poésie se trouve à tous les degrés du temps, à tous les degrés de la terre, hein, comme le vin, hein, donc, à différents types de degrés aussi. Alors, je commence. Le geste du poème absout la descendance. L'angle des planches modifie la gravité et l'axe. La rampe offre au regard les mêmes chances. Une main arrêtait le mouvement des horloges à la fin de l'acte. Donc là, on est dans plusieurs dimensions, finalement. On est donc à tous les degrés du temps, tous les degrés de l'espace aussi, puisqu'on a l'angle des planches qui modifie la gravité et l'axe. Hein. Donc on est dans l'espace. Et puis après, on a une main arrêter le mouvement des horloges à la fin de l'acte. Hein. Donc multidimensionnel, multitemporel, hein. Ou alors peut-être atemporel et aspatial. On est à différents degrés, ou peut-être pas de degré du tout, on ne sait pas. Hein. Donc, on a l'impression que les dimensions sont bousculées. Par exemple, je lis ici. Un flot de cigognes exilées lévite au-dessus des cimes, vers les terrasses des palais cachés, derrière les portes vives du souk, entre deux échoppes étroites. On est dans le ciel, on est au niveau de palais, on est au niveau du souk, on est au niveau des échoppes. Donc on est un peu partout. Hein. Donc on a l'impression que les repères sont bousculés. Est-ce que c'est peut-être parce qu'on a trop bu ? Donc que les degrés du vin hein, ne nous permettent plus de différencier où nous sommes. Donc où nous sommes et quand nous sommes. Donc on a l'impression que tout est flou. Alors, les repères aussi, par exemple. Des torses de femmes naissent en même temps du ventre de l'herbe et tendent leurs bras avides vers le feuillage du ciel. Donc là, on a l'impression qu'on est dans un tableau tout à fait surréaliste. Un petit peu plus loin aussi. Degrés secrets d'une cité sous la mer. Les rêves récurrents se sont noyés dans l'encrier d'Andersen. Les cils de l'escalier battent dans le visage d'une demeure aux toits de cristal brisé. Aile de femme déployée par l'obscure illusion du plaisir, blessure au poignet de l'estuaire. Donc c'est vrai qu'on a des paysages tout à fait différents, des personnages tout à fait différents, donc un escalier qui se transforme qui se transforme en visage, donc on ne peut. Les repères sont perdus, les repères sont partis. Eh bien, le poète est peut-être dans une sorte de délire. Hein. Peut-être est-ce le délire aussi de l'ivresse. Donc, on va écouter un tout petit extrait donc, de d'Isaïe, c'est toujours le même. Terminer ce recueil sur ce petit extrait de musique, hein, avec la dernière page du recueil. Les servantes veillent toujours sur la scène et l'orchestre joue sur le pont qui s'incline. Alors là, il me semble qu'on retourne peut-être à une certitude. Hein, veille toujours sur la scène, donc c'est une présence qui réconforte. Et la musique qui est là hein, permet donc de préserver une certaine continuité, même si le pont s'incline. Donc le pont qui s'incline, c'est peut-être justement une allusion effectivement à l'ivresse, le fait que l'alcool hein, fait tanguer, Donc voilà. Vous avez eu un aperçu ici d'une autre veine, je pense, de l'écriture de Chantal Dupuis-Dugnet. On a un recueil qui est plus secret, qui est plus surréaliste que les précédents, hein, qui tente, je pense, de percer les méandres de la création, d'y pénétrer de biais, par les coulisses, avec un regard non conditionné, étonné et étonnant, et aussi peut-être avec un petit peu d'ivresse. Hein. Et ça, c'est une allusion, donc tirée à cette allusion avec, à Apollinaire et au recueil Alcool. Je vous rappelle donc le spectacle organisé par Amélie Murat et l'association France-Pologne de Clermont-Ferrand, Vision du visage, au foyer Jean Richepin, rue Jean Richepin, le samedi 30 novembre à 18h, qui parle de la quête de la mer. Voilà, bien, venez nombreux, ça nous fera très plaisir. Merci. Donc c'était Radio Altitude, La Voix des Poètes, sur Chantal Dupuis-Dugnet, consacrée à Titres ou coulisses des degrés. À bien la semaine prochaine.